Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, on est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi matin, c'est un plaisir d'être avec vous. Et ça y est, je suis avec mon invité, bonjour Marie Zolagnon.
Bonjour Bernice.
Ravie de vous recevoir, vous êtes entre autres présidente fondatrice de Finestate, alors on va découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore Finestate, présidente aussi de la Fédération des sociétés immobilières et foncières, vous avez un parcours incroyable, on va justement revenir sur votre parcours, parler aussi de l'actualité immobilière qui est assez riche, parler de vos différentes casquettes. On vient d'écouter votre premier choix musical de la country Carrie Underwood, Before It Cheats. Un petit mot sur cette musique, la musique américaine, country, comme on les aime.
Eh bien, sans doute, comme beaucoup de personnes, j'aime beaucoup aller aux États-Unis, j'aime beaucoup la culture américaine. J'ai eu la chance de vivre aux États-Unis pendant 2 ans, de continuer d'y aller, d'avoir des amis, et c'est une musique que je trouve très gaie. Donc, parfaite pour démarrer la journée.
Ouais, c'est vrai que c'est agréable de commencer en musique. Alors, justement, on va parler des États-Unis parce que ils ont eu un rôle, ce pays a eu un rôle dans vos choix professionnels, dans votre carrière et puis dans la création de Finestate aussi. Alors, avant de commencer, c'est un peu un rituel dans le Mac de l'Immo. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, expliquer qui vous êtes?
Eh bien, vous avez déjà dit l'essentiel, puisque j'ai tendance à passer beaucoup de temps dans la société que j'ai créée il y a 5 ans, qui s'appelle Finestate, qui est dédiée au logement temporaire pour des cadres d'entreprise qui sont en mission, par exemple. Je passe également beaucoup de temps à la Fédération des entreprises immobilières qui réunit les principales sociétés cotées immobilières, mais qui accueille également de grands promoteurs, la branche immobilière de sociétés d'assurance. Nous couvrons un certain nombre de grands acteurs du monde immobilier. Et si l'on regarde le patrimoine global de nos adhérents, ça représente 124 milliards d'euros, 24 millions de mètres carrés. Donc, ce sont des intervenants importants dans la vie économique immobilière, à la fois à Paris, mais aussi dans les régions et à l'étranger.
Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, avant de parler de Finestate, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours?
Oui. Alors, j'ai un parcours qui n'est pas très linéaire, puisque j'ai commencé par des études d'économétrie. Et je faisais en parallèle, par curiosité, une licence de sociologie, une licence d'anglais, qui m'ont menée à Sciences Po, l'ENA, en cursus économique. Et néanmoins, j'ai choisi le Conseil d'État à la sortie, qui a été un passage extrêmement formateur pendant 4 ans. Mais je n'y suis pas retournée tout en gardant beaucoup d'attachement pour cette maison qui m'a apporté beaucoup et m'a formée véritablement. Ensuite, je suis partie vivre aux États-Unis en qualité d'attaché financier à l'ambassade de France, à Washington. Et après, mon parcours m'a menée dans les cabinets ministériels, budget, industrie. J'ai été ensuite nommée directrice des affaires internationales de la Compagnie Générale d'Électricité, juste au moment où elle était privatisée. Donc c'était une époque importante, oui. Très importante. Et c'était en même temps la première fois qu'une entreprise française se portait acquéreuse d'une entreprise américaine. Donc c'était une entreprise très puissante à l'époque. Et puis ensuite, j'ai basculé sur l'investissement. En rejoignant Euris en qualité de directeur général. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le private equity, qui n'était pas du tout immobilier d'ailleurs, jusqu'au moment où, l'immobilier étant un sujet qui m'a toujours passionnée, eh bien, j'ai créé ma propre entreprise d'investissement immobilier qui s'appelait Affine, qui s'est développée pendant 30 ans, très bien d'ailleurs, et que j'ai vendue par fusion-absorption à une autre société il y a 5 ans, une autre SIC, puisque elle avait le régime des sociétés immobilières cotées. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé Finessate.
Et donc vous avez vendu pour créer un nouveau bébé.
Voilà, parce que j'avais envie de développer ce concept qui n'existait pas vraiment en France à ce moment-là, qui maintenant s'est énormément développé et sous des formes extrêmement variées d'ailleurs.
Donc le co-living.
Et je ne le voyais pas se développer dans une structure cotée, avec sous le feu des analystes qui n'aiment pas qu'on s'écarte trop du business plan qu'ils ont préparé.
Trop de contraintes.
Et ça crée beaucoup de contraintes. Oui. J'avais un petit peu l'impression qu'il fallait recommencer.
Alors là, on est en 2019.
Oui.
Donc c'est ce qu'on disait, vous étiez précurseur à l'époque, parce qu'on a vu donc fleurir les co-living depuis essentiellement le Covid, les confinements. On a vu une évolution des modes d'habiter, des modes de consommer l'habitat. Comment vous avez eu l'idée en 2019, bien avant les confinements ? D'où c'est venu cette idée ?
Eh bien, si vous vous rappelez bien, on avait déjà vu apparaître le coworking et cette idée de communauté, de partage d'espace, se développait déjà beaucoup. Et j'étais aux États-Unis au moment où WeWork a ouvert WeLive, qui est son concept de co-living, qui d'ailleurs n'a pas tellement prospéré, objectivement. Oui. Mais j'ai eu l'occasion de visiter le WeLive de Wall Street. Ça m'a paru extrêmement intéressant, parfaitement adapté aux besoins des travailleurs un peu nomades, cadres supérieurs d'entreprise amenés à faire des missions à l'étranger pour les gens qui sont en transition. Et je me suis dit que ça n'existait pas à Paris et qu'il fallait le créer, que j'avais envie de le faire. Voilà. En réalité, quand j'ai commencé à travailler un peu plus la question, je me suis rendu compte que c'était déjà très développé en Angleterre, par exemple, en Belgique, beaucoup, sous une forme très différente.
Oui,
et
c'est
puis,
vrai, oui.
En France, il y a déjà, enfin, le premier co-living tel qu'on l'entend aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le visiter à Marseille. Babel Communities.
Oui.
Et donc, voilà. Mais notre concept est finalement assez différent de tous ceux qui ont fleuri depuis, oui, puisque nous sommes véritablement très orientés B2B, cadre d'entreprise. Et donc, ça n'est pas du tout une communauté d'étudiants, par exemple.
Oui, bien sûr. C'est un co-living lifestyle, hein, c'est ce qu'on appelle.
Voilà.
Premium.
Voilà, nous sommes attachés dans la création de ces immeubles, puisque nous avons acheté des immeubles de bureaux obsolètes qui ont été remis à nu et complètement transformés. Et nous sommes attachés à leur donner effectivement un certain style, une certaine ambiance qui a été reproduite dans les autres résidences. Et je crois que nos résidents sont très heureux puisqu'ils reviennent. Bon, ça fait 2 ans que nous avons ouvert la première résidence. Ils reviennent, ils font venir certains de leurs collègues. Et donc, le mécanisme correspond à un besoin actuel du marché.
Alors, ils sont situés où, ces immeubles ?
Il y en a un qui est au métro duplex. Le métro est fondamental, c'est pour ça que je me positionne en fonction du métro, en partant du principe que quelqu'un qui est en mission pour 3 mois, pour 6 mois, ou même pour 15 jours... ne vient pas avec sa voiture, que les transports en commun en Île-de-France sont suffisamment développés pour... Et puis, on se rend compte que c'est souvent plus efficace de ne pas utiliser sa voiture. Donc, nous positionnons toujours à proximité immédiate d'un métro. Donc, la première est à duplex, la suivante est à mairie d'ici, et la dernière, que nous avons ouverte au mois de septembre, est à Georges V.
D'accord, oui, donc vraiment des lieux stratégiques.
Oui, au cœur des hubs de circulation et des quartiers d'affaires, en réalité.
Alors, parlez-nous de ces résidences, justement. Qu'est-ce qu'elles comprennent ? Donc,
Ce sont des studios, ce sont des immeubles entiers, déjà. Donc, il n'y a pas de copropriété. Ce sont des immeubles entiers avec des studios qui offrent une kitchenette complète, avec également une salle d'eau privative, et puis un espace... pour dormir, et un espace un peu plus travail avec un bureau, une télévision Chromecast qui permet de projeter des graphes, de travailler en visio.
PowerPoint.
Voilà. Mais à côté de ces studios, il y a des espaces communs qui représentent 25 à 30 % de l'immeuble. Donc c'était au départ un vrai pari architectural. que de dédier tant de mètres carrés à des espaces communs, donc une grande cuisine communautaire, un salon, un home cinéma, un fitness, une laverie et des espaces verts. Il y a toujours un jardin, un rooftop.
D'accord.
Donc,
c'est important pour vous.
C'est très apprécié dès qu'il fait beau, en particulier. Ouais. Ce sont les lieux de rencontre sont là.
Alors justement, vous parliez de la restructuration. Donc, c'est les trois sont des anciens bureaux que vous avez réhabilités.
Le premier est le prototype est en fait un petit hôtel particulier. Donc, on n'a pas fait de gros travaux parce que les autres venaient derrière et que c'était des travaux extrêmement lourds. Et qu'en réalité, l'idée était plutôt de démolir cette petite maison un peu décrépite et de construire un nouvel immeuble. Mais les autres sont effectivement des transformations de bureaux existants d'une cinquantaine d'années, en bon état, mais pas suffisamment bon état pour être loués, compte tenu des exigences des locataires aujourd'hui. Donc ils étaient vacants depuis 5-6 ans, une vraie friche. Immobilière en réalité.
Les fameux bureaux vacants dont on parle.
Exactement.
Sauf que Paris intramuros.
Cela était quand même extrêmement bien situé.
Oui, c'est assez rare d'avoir.
J'en ai étudié beaucoup avant de les sélectionner et nous continuons d'étudier beaucoup de dossiers pour sélectionner les suivants.
Et justement, alors comment vous sélectionnez un dossier? Alors c'est, j'imagine, au niveau architectural, il faut que ça matche avec les.
Voilà.
Est-ce que vous voulez en faire?
Alors quelques impressions rapides quand on voit un immeuble déjà. Donc la proximité immédiate d'un métro, c'est crucial. Ensuite, la largeur du bâtiment. Oui. Parce qu'il ne faut pas que le bâtiment soit trop épais, mais qu'il le soit suffisamment pour faire un couloir central et des studios de part et d'autre. L'épaisseur optimale, c'est entre 13 et 15 mètres, par exemple. Faire en sorte que toutes les façades aient accès à la lumière du jour. Si vous avez des studios aveugles, ça ne marche pas, évidemment. Et avoir une trame de fenêtres suffisamment adaptée pour avoir des studios d'une vingtaine de mètres carrés. Donc une trame de fenêtres, l'idéal étant 1m80 qui se répète.
Donc c'est assez précis au final.
Ça permet d'aller très vite dans l'analyse.
Nous
allons maintenant très très vite dans l'analyse. Alors évidemment, le mieux, c'est quand il y a déjà deux cages d'ascenseur et d'escaliers. Parce que les gros travaux sont les travaux de structure. Et si on doit recréer une cage d'ascenseur, recréer une cage d'escalier, ce sont tout de suite des travaux très lourds.
Combien de temps ça prend combien de temps ça a pris, là, par exemple, pour les deux suivants
Période Covid.
Ah oui.
Voilà. Période de pénurie d'approvisionnement. Il y a eu une période où nous n'avions pas de châssis de fenêtre en aluminium. Il n'y avait plus de placoplâtre disponible sur le marché, plus de bois. Plus de stratifiés. Donc, il y a eu beaucoup de retard et ça nous a pris entre 3 et 4 ans. Bon, j'espère que les prochains iront plus vite.
Quels sont les profils de vos clients?
Alors, typiquement, ce sont des entreprises... les sociétés conseil sont par définition nos clients privilégiés. Nous avons un client très fidèle, par exemple KPMG, ce genre de société qui envoie leurs collaborateurs en mission et les missions durent... d'une semaine à six mois. Donc ça, c'est une niche. Une autre niche qui se développe beaucoup, en particulier pour la résidence de mairie d'ici, ce sont tous les salons qui se tiennent Porte de Versailles. Nous sommes à deux stations de métro de la Porte de Versailles, mais avec un grand jardin, un grand rooftop, donc c'est tout de suite plus agréable. Et par exemple, à l'occasion du salon Vivatech, une grande société de communication a pris 20 studios d'un coup.
Pour aller écouter Elon Musk.
Voilà le profil de nos clients. Mais nous avons aussi quelques clients individuels. On ne les refuse pas, naturellement. Des personnes qui font refaire leur appartement et qui, pendant trois mois, préfèrent aller habiter ailleurs le temps que leurs travaux se réalisent.
D'accord. Et ça, c'est assez exceptionnel, mais vous...
On en a quelques-uns. Ils sont bien accueillis, naturellement. Oui. Nous avons beaucoup d'étrangers, une majorité d'étrangers. Et puis, dans la typologie est un peu différente selon les résidences. Dans la résidence qui est rue Washington, donc à 50 mètres des Champs-Élysées, nous avons pas mal de touristes également.
D'accord.
Qui viennent pour une semaine, 15 jours.
Des touristes américains, je présume
Il y a des Américains, mais pas nécessairement. Il y a aussi beaucoup de gens d'Asie, du Moyen-Orient, des autres pays européens.
Quelle est la durée de séjour minimum?
C'est en principe 15 jours. Mes collaborateurs font un yield management très serré, et quand ils voient qu'il y a pendant une semaine un studio qui est vide, ils l'ouvrent à la location également. Ouais, ouais. Donc ça peut descendre jusqu'à une semaine. On évite de faire moins compte tenu de notre... mais ça peut se produire lorsqu'il y a juste un interstice.
Le principe, c'est... pour pas qu'il y ait de vacances locatives.
Voilà, on bouche les interstices. Ouais.
Et la demande, j'imagine qu'elle est, elle est constante. Elle est constante.
Oui. Elle est constante.
Vous n'avez aucune vacance locative.
On a une petite vacance structurelle, mais il faut avoir cette respiration parce que nous travaillons beaucoup avec Booking, par exemple. Ouais. Et sur Booking, vous pouvez réserver le samedi à 14h et arriver à 20h le soir. Ouais. Donc, on a la possibilité d'accueillir toujours au moins une personne de plus. Mmh. On essaie de garder cette possibilité. Mmh. Mais ça n'est pas toujours le cas. En ce moment, avec les salons, on est à 100%.
Et vous parlez de Booking, c'est comment vous vous faites connaître justement Booking? C'est la majeure partie des réservations ou comment
ça se passe? Non, ça n'est pas la majeure, mais c'est pas loin d'être la majorité en effet. Il y a d'autres plateformes. Nous travaillons avec une vingtaine de plateformes.
D'accord.
Et donc le principe, c'est qu'on fait connaître nos résidences aux responsables de la commercialisation de ces plateformes et nous, elles sont rémunérées. Donc elles ont des honoraires qui vont de 5 à 15-20% du montant des prestations, enfin de, je ne dis pas loyer parce que c'est pas vraiment une location, mais du montant du prix du séjour.
Et alors vous qui côtoyez, vous êtes sur le terrain, les actifs, les cadres, qu'est-ce que vous voyez comme évolution depuis les confinements sur la manière de travailler, sur et puis même les entreprises, comment elles gèrent-elles leurs talents?
Eh bien, en réalité, et ça a été un peu une surprise, les personnes qui viennent travailler chez nous sont en mission, donc ils partent très tôt le matin, à 7h30, ils reviennent vers 9h le soir, et ils utilisent assez peu les espaces de coworking. D'accord. Que nous avons préparés pour eux, sauf le week-end. D'accord. Donc le week-end, ils arrivent, ils s'en servent, mais ils utilisent assez peu les espaces communautaires parce qu'ils travaillent beaucoup, ils sont là pour une période très, très courte. En revanche, ceux qui sont là sur un mode plus touristique sont plus présents dans les espaces communs, plus curieux de bavarder avec nous. C'est très variable en réalité, c'est très variable. Et le week-end, c'est encore différent parce qu'ils utilisent davantage le rooftop, la communauté fonctionne un peu plus pendant les week-ends que dans la semaine.
Oui, c'est ce qui est logique aussi.
Voilà.
Finistère, c'est combien de personnes?
Alors, nous sommes aujourd'hui une dizaine, en comptant le personnel sur site. Donc, il y a quatre personnes sur site, plus les personnes du week-end, puisque le week-end, il faut que les gardiens d'immeubles puissent... avoir le week-end, donc avons des personnes complémentaires qui viennent. Non, on essaie d'avoir toujours les mêmes qui viennent tous les week-ends.
D'accord.
Mais effectivement, là, nous faisons travailler des étudiants.
D'accord.
Du pôle égalité des chances de Sciences Po, et ils sont très contents, nous sommes très contents, ça se passe très bien.
Mais vous êtes toujours attachée à Sciences Po.
Oui, j'ai des liens particuliers, un partenariat avec Sciences Po, oui.
Comment justement vous recrutez les talents, comment ça se passe? On parle d'une pénurie de talents, est-ce que vous avez été touché?
C'est un secteur, l'hôtellerie, où les gens tournent beaucoup, et donc l'important, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent bien traités, respectés, et dans ce cas-là, ils se stabilisent. Donc nous avons maintenant la chance d'avoir des équipes très stabilisées, contentes de faire ce qu'elles font, et bien animées. Il y a chez Finestate trois personnes très qualifiées en hôtellerie qui ont fait les meilleures écoles hôtelières, Lausanne, Guillon et l'école hôtelière de Paris, donc qui connaissent très bien leur métier, qui est un métier que moi je ne connaissais pas beaucoup jusqu'à ce que j'ai créé Finestate, et qui savent très bien animer le personnel sur site, vérifier la qualité de la prestation, c'est fondamental. Et en particulier, l'hygiène est évidemment extrêmement poussée. Mais pas seulement ça, il y a aussi la qualité de l'accueil, du service, la disponibilité. Donc, nous sommes en permanence, via des systèmes WhatsApp, à l'écoute de nos résidents. les résidents communiquent entre eux et communiquent avec nous via une adresse mail et un système WhatsApp qui fonctionne très bien pour le coup.
Pendant les JO, qu'est-ce que vous avez prévu?
On a prévu d'être tous là.
Ah oui.
Déjà, parce qu'on sait qu'on va être plein et qu'il y a toujours des incidents. Et c'est proportionnel au nombre d'occupants, finalement. Donc,
là, vous êtes déjà full pour les JO?
Quasiment, oui.
D'accord.
Oui.
Donc, c'est intéressant de voir à l'inverse des hôtels, hein, parce qu'on voit que les hôtels ne sont pas du tout pleins.
Ou pas du tout, je crois que là...
Alors, le haut de gamme, ils sont
peut-être
pleins,
pas à la hauteur de leurs espérances.
Mais les hôtels baissent les prix, là.
Alors, nous étions partis, nous aussi, sur une perspective de prix doublée. Ouais. Et là, on est plutôt à plus 80%.
D'accord.
Et il y a des seuils psychologiques, vous baissez de 50 euros et ça se remplit.
Et alors, on va accueillir 15 à 16 millions de touristes, beaucoup de Français, mais aussi des étrangers. Vous, ce sera quelle clientèle? Plutôt des étrangers
plutôt
ou des Français?
Plutôt des étrangers, je pense, parce qu'ils viennent pour une période plus longue.
Ouais.
Quand on vient de très loin et qu'on vient à Paris, on reste au moins 15 jours. Et donc, notre solution, qui est beaucoup plus économique qu'un hôtel, en moyenne la moitié... moitié moins cher, est évidemment très attractif pour les séjours longs.
Bien sûr. Autre question sur le co-living, comment vous voyez l'évolution de cette tendance? C'est vrai qu'on voit, avant c'était réservé essentiellement aux travailleurs. Là on voit, vous l'avez dit, maintenant il y a des co-living pour les étudiants, il y a des co-living aussi pour les familles, enfin les parents seuls qui se développent. Comment vous voyez l'évolution de cette tendance?
Je crois que c'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde parce que les villes et le mode de vie urbain maintenant a tendance à créer l'isolement, la solitude, voire même la dépression.
Oui.
Et le fait d'être dans une communauté, de savoir que quand on croise quelqu'un dans l'ascenseur, on lui dit bonjour, que lorsqu'on a envie d'aller voir un film au home cinéma, bien, on ne va pas se retrouver seul, il y aura d'autres personnes pour regarder le film ou le match. Quand on monte sur la terrasse, on ne se retrouve pas seul non plus. C'est important maintenant, c'est important de pouvoir échanger. Et comme nous avons des communautés assez homogènes, puisque ce sont en général des cadres d'entreprise, ils sont souvent curieux les uns des autres.
Oui.
Nos résidents se rendent des services entre eux.
D'accord.
Dans les petits messages permanents, parce que le flux des WhatsApp est ininterrompu. Il y a aussi bien qui peut me prêter un tire-bouchon, un séchoir à cheveux, ou comment puis-je faire marcher mon Chromecast? La plaque électrique ne fonctionne pas, mais si elle fonctionne, voilà comment il faut faire. Et donc, notre objectif est qu'ils soient de plus en plus autonomes et sans nous.
Oui.
Bon, évidemment, quand on voit que personne ne répond au bout d'une minute,
nous
répondons. Mais sinon, ça crée des liens et les gens se rendent service et c'est important.
Oui.
De temps en temps, nous sommes par exemple à la mairie d'ici, proche d'une école de cuisine. Il y a des élèves qui font des desserts, des plats et qui disent « venez goûter ce que je viens de faire ».
Ah oui.
Donc ça, c'est très sympathique.
Ah, Oui, c'est vrai que ça crée du lien et ça, vous le ressentez depuis le Covid en fait. Il y a peut-être un
ça crée du lien. Et les personnes ont besoin de services, ont besoin d'être un peu nursées aussi parce que parfois ils nous demandent des choses que normalement en étant bac plus 5, bac plus 10, ils devraient savoir faire tout seuls, mais ils ont besoin d'être rassurés, nursés. Et nous avons
d'avoir
sur
une
place,
présence, oui, peut-être.
Voilà, des personnels qui sont très attentifs, très serviables et ça marche très bien.
Ouais. Alors, comment vous voyez, quels sont vos projets pour Finestate
J'aimerais bien continuer sur ma lancée maintenant et continuer. On est en train d'explorer tous les nouveaux dossiers qui nous arrivent, mais continuer sous une forme un peu différente en étant plutôt prestataire de service.
D'accord, donc pas acheter l'immeuble.
Voilà, ou pas être seul à l'acheter, dirons-nous.
Ouais.
Et de façon à utiliser tout ce que nous avons développé et mis au point et appris même pendant ces années. Ce qui est très important, c'est l'aspect commercialisation. Donc c'est quand même une technique.
Bien sûr.
Il y a beaucoup de savoir-faire là-dedans maintenant. La plateforme informatique est également très importante. À la fois pour la commercialisation, les réservations, la gestion du planning, qui est quand même très fine. Nous avons maintenant 70 studios, donc gérer ça en temps réel, ça demande des outils.
Oui. Vous utilisez l'intelligence artificielle ?
Alors, pas encore, mais je pense que les logiciels que nous utilisons sont assez orientés, mais on n'utilise pas encore en tant que tel.
D'accord.
Si, alors, pour être exact, nous l'utilisons lorsque nous faisons des articles.
Oui, pour rédiger ChatGPT.
Pour rédiger, pour faire les images qui accompagnent les articles. Oui. Nous utilisons ChatGPT-4.
D'accord. Est-ce que pour vous, ça va révolutionner un peu le secteur
Ah oui, ça, j'en suis convaincue. Ça commence, mais ça va être aussi important que l'arrivée d'Internet il y a 30 ans.
Oui.
Dans le secteur, c'était plus ancien, mais
bien sûr.
Dans le secteur immobilier.
Oui.
Oui, tout à fait.
Alors justement, le secteur, on va en parler maintenant avec votre autre casquette, donc en tant que présidente de la Fédération des sociétés immobilières et foncières. Quels sont les combats du moment ?
Il y a en permanence des combats du moment. C'est une actualité qui est toujours très très riche, parce qu'en fait, l'immobilier touche à beaucoup de secteurs.
Oui.
On n'y pense pas toujours, mais l'urbanisation, la mobilité... sont des secteurs qui ont une incidence directe sur l'immobilier, bien sûr. La sobriété énergétique, oui. Donc les modes de construction. Notre fédération essaie de promouvoir. Par exemple, nous avons signé la charte de sobriété énergétique avec le ministère et encouragé nos adhérents à venir signer avec nous.
Et ils sont plutôt réceptifs à...
Ils sont plus que réceptifs parce que la majorité étant des sociétés cotées,
oui.
Ils sont en réalité très en avance sur tous les sujets, oui. ESG, puisqu'il y a maintenant une exigence de publication d'un rapport spécifique ESG. Donc en fait, nos adhérents, notre secteur d'activité en général est beaucoup plus en avance que d'autres secteurs industriels sur les aspects environnementaux, par exemple, ou sobriété énergétique. Ça, on a souvent tendance à le minimiser, mais l'importance de bien construire un immeuble pour qu'il soit sobre en énergie et durable est sentie depuis longtemps, parce que ce sont des investisseurs, et donc un investisseur a le souci de la pérennité de ce qu'il achète et de
son
patrimoine.
Et la France aussi est
plutôt en avance, oui. Ouais. Alors ça crée parfois des difficultés. Objectivement, je suis pour ma part convaincue qu'une partie du problème de contraction du marché locatif que nous connaissons maintenant résulte des obligations de diagnostic DPE,
ouais.
Qui font qu'un certain nombre d'appartements sont sortis du marché locatif parce qu'ils ne sont pas aux normes permettant de les louer aujourd'hui. Et ça constitue une attrition du marché depuis un an, depuis le début de l'année 23, dont on souffre tous maintenant. Par exemple, demande un desserrement des délais.
Donc un décalage du calendrier, par exemple.
Oui, peut-être pas pour tout le monde, mais déjà pour permettre, par exemple, aux particuliers d'adapter leurs appartements pour pouvoir les mettre en location. Les institutionnels s'adaptent parce qu'ils anticipent beaucoup plus.
Oui. Ils ont plus de trésorerie aussi.
Et ils ont la trésorerie pour le faire. Ils ont la possibilité surtout de le faire bien, parce qu'ils font l'immeuble en une fois.
Ouais.
Mais le parc locatif est pour beaucoup détenu par des particuliers.
Ouais.
Et ceux-là n'arrivent pas à se mettre à jour suffisamment tôt, vite, n'ont pas les moyens, et ont besoin d'un peu plus de temps. Donc par exemple, c'est le genre de combat que peut mener la fédération, expliquer la réalité du terrain. Mmh. En ce moment, par exemple, nous sommes très engagés sur le sujet de la mensualisation des loyers, qui est des loyers de commerce. Donc, nous avons aussi des grands groupes commerciaux parmi nos adhérents, des grands groupes comme Unibail, Klépierre, par exemple, Frey également. Donc, ce projet de loi, puisqu'il n'est pas complètement voté encore, a des incidences fortes sur l'économie de nos adhérents.
Il sera voté en septembre, hein, c'est ça, non ?
Oui, enfin là, il est déjà passé au Sénat, donc ça ira peut-être même plus vite. Donc voilà, le rôle de la fédération, c'est d'expliquer la réalité du terrain pour faire comprendre et défendre les intérêts de ses adhérents.
Et est-ce que vous êtes entendu ? Est-ce que vous vous sentez en tout cas entendu auprès des politiques
Ça dépend des sujets. Je ne suis pas certaine que nous ayons été entendus, en dépit de nombreuses réunions dans le cadre de la discussion du PLU bioclimatique de la ville de Paris, par exemple.
Plan local d'urbanisme pour nos auditeurs.
Oui, pardon. Exactement.
Ouais. Là, mais vous n'avez pas eu l'impression d'être entendu.
Je dis, je ne suis pas certaine. Ouais. On va voir à l'issue de l'enquête publique où nous avons été auditionnés. Et donc, nous verrons bien à l'issue de cette enquête ce qui va se passer. Mais par exemple, nous sommes auditionnés également par les commissions spécialisées du Sénat ou de l'Assemblée nationale lorsqu'il y a un projet de loi. Nous avons été beaucoup consultés sur les freins au logement et les mesures susceptibles de favoriser la sortie de cette crise de logement. Ouais. Donc, nous avons des notes de proposition que nous transmettons aux ministres, aux parlementaires, et il y a un certain nombre, c'est une grosse satisfaction, un certain nombre de ces propositions que l'on retrouve reprises après dans les lois. Donc,
par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Par exemple, l'allègement dans le cadre du projet de loi simplification, l'allègement d'un certain nombre de formalités administratives à l'occasion de l'examen des permis de construire.
Donc, que Gabriel Attal a cité d'ailleurs.
Voilà. Le fait de favoriser, par exemple, le bonus de constructibilité lorsqu'on se livre à la transformation de bureaux en logement, dont on sait que ça représente un surcoût considérable par rapport au fait de raser l'immeuble et de reconstruire. Ce surcoût peut être compensé pour trouver l'équilibre économique de l'opération par un bonus de mètres carrés supplémentaires.
D'accord, oui.
Donc, il existe déjà dans la loi, mais nous demandons qu'il soit respecté de droit.
Systématiquement.
Voilà. Il y a beaucoup de mesures. Oui. Ce sont des documents épais que nous allons présenter. Donc voilà, c'est le travail de la fédération.
Donc travailler plutôt sur l'offre. En tout cas, vos propositions sont plutôt focalisées sur l'offre que sur la demande.
En matière de logement.
Oui.
Oui, la demande est là.
Ouais.
La demande est là, elle n'est pas satisfaite et l'offre n'est pas adaptée.
Mais je parlais pour les propriétés, enfin les gens qui souhaitent accéder à la propriété.
Pour l'accès à la propriété. Ouais. Non, ça c'est moins notre sujet puisque nous avons surtout des adhérents institutionnels. Ouais. Mais c'est un sujet pour nos adhérents promoteurs en revanche.
Bien sûr.
Donc il y a aussi des volets destinés à faciliter l'accession à la propriété, effectivement.
Oui, les promoteurs.
Les primo-accédants. Après, les promoteurs sont très attachés à cela, effectivement. Et certaines mesures, le prêt zéro, par exemple, font partie des mesures que nous avons poussées, bien sûr.
Justement, cette semaine, une étude est sortie qui a été réalisée par l'UNAM, l'Union des aménageurs, et le SPI qui dévoile le nombre de logements dont aurait besoin la France chaque année. Donc, c'est 400 000 nouveaux logements. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce nombre?
C'est un nombre très récurrent. On en est loin en ce moment. On est plus près de 200, 250 et encore, c'est même pas sûr.
Ouais.
C'est même pas sûr si on considère le nombre de permis déposés maintenant et mis en application, mis en œuvre aujourd'hui.
C'est catastrophique, hein, Pascal Boulanger de la FPI l'a
lui,
dit.
Lui, il est assez net dans l'expression de... Oui. Mais effectivement, c'est une grosse préoccupation.
Ouais. Et c'est ce que vous disiez, hein, l'UNAM parlait du desserrement des foyers, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au co-living. Il y a beaucoup plus de personnes qui vivent seules, en fait.
Exactement.
Et quand on regarde la data de l'INSEE, on voit que le nombre de personnes par foyer diminue sans cesse depuis 1968. La courbe vraiment descend.
Donc, paradoxalement, ça crée un besoin de logement supplémentaire.
Ouais.
Et c'est l'intérêt, justement, du co-living que d'offrir ces espaces partagés, cet habitat partagé. Donc, c'est une forme de densification qui ne dit pas son nom.
Ouais.
Puisqu'on partage le salon, les espaces communs, c'est une forme de densification.
Et puis, c'est des studios, donc c'est des...
Autonomes. On a en même temps son autonomie, bien sûr.
Ouais. Et vous avez pensé à ça en créant Finestate, aux besoins de logement
Ah oui, bien sûr.
Ouais. C'est quelque chose
Mais l'immobilier a une connotation sociologique extrêmement forte et démographique. La démographie est un point extrêmement important pour apprécier le choix d'une ville, par exemple. Il est clair qu'il ne faut pas aller faire d'investissement immobilier dans une ville qui n'a pas de croissance démographique. C'est vraiment pas la peine.
Mmh.
Ça marchera pas.
Oui.
Parce qu'on construit ou on achète un immeuble pour 10 ans, 20 ans. Et si la démographie n'est pas favorable, ça se passera pas bien à la sortie.
Oui, forcément.
Donc c'est un élément très important. Et à cet égard, le fait que la population parisienne diminue n'est pas nécessairement un bon signe pour la ville de Paris. Bon, mais elle va pas très loin. Elle se met en première.
Oui, c'est 15 000 habitants par an, je crois.
Voilà, donc c'est plutôt l'idée du Grand Paris qui se développe.
Oui, c'est ça, oui. Oui, avec les familles qui partent en première couronne, deuxième
Exactement.
Couronne. Et justement, quand on parle des villes, vous visez d'autres villes, par exemple, je sais pas, Lyon, Bordeaux. Est-ce que c'est des choses où vous resterez focalisé sur Paris?
La question m'a été très souvent posée, et en particulier pour Lyon, effectivement, qui a déjà des co-living. À Bordeaux, il y en a aussi. Mais compte tenu de la population ciblée, nous partons du principe que ce sont plutôt des gens qui vont dans les capitales. Alors, nous avions commencé avant le co-living à travailler en parallèle Paris et Bruxelles, puisque j'ai eu l'occasion de travailler longtemps à Bruxelles en ayant une société cotée là-bas aussi. Et donc, c'est un marché que je connais bien, qui offre beaucoup de possibilités. Mais au moment du Covid, j'ai tout arrêté puisque je ne voyais pas la possibilité de mener à terme des chantiers en étant à distance. Oui. Mais je vais peut-être commencer maintenant.
Oui, parce qu'en plus, il y a toutes les institutions européennes à Bruxelles.
Il y a beaucoup de potentiel et surtout, le marché bruxellois est constitué d'immeubles très vieillissants, mais très beaux, et donc qui se prêtent bien à une jolie rénovation, transformation.
Oui.
Bon, en même temps, il y a beaucoup de choses à faire à Paris, en région parisienne en ce moment aussi. Donc je regarde tous les dossiers qui me paraissent pouvoir être étudiés.
Donc Paris et Bruxelles peut-être.
Et Bruxelles peut-être.
Juste avant de terminer, parce que l'émission touche à sa fin, donc un site internet pour réserver, pour vous trouver.
Finestate.eu.
.eu, tout simplement.
HTTPS, voilà. Finestate.eu.
Eh bien, merci beaucoup Marie Zolagnon pour cet entretien passionnant.
Merci,
et puis merci de nous avoir présenté Finestate. Donc, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un tout nouveau Mac de Limo et ce sera avec Sylvain Grattalou de l'UNPI. À très vite.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.